Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les interminables tractations à gauche pour les législatives. Jean-Luc Mélenchon sort du silence et ne dit pas non, vous l'entendrez à Matignon.
Et justement, à 7h40 ce matin sur RMC, mon invité c'est Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste. Comment est-ce qu'il réagit à ces déclarations de Jean-Luc Mélenchon hier ?
Le feuilleton, toujours à droite, Éric Ciotti, qui vient d'être exclu des LR, n'abdique pas. Vous l'entendrez aussi, le psychodrame a continué cette nuit sur les réseaux sociaux. Et premier sondage ELAB ce matin, depuis l'Union de la Gauche, 31% pour le RN, 28% pour le Front Populaire, 18% seulement pour le camp présidentiel.
Et revoilà Jean-Luc Mélenchon.
On ne l'avait pas entendu depuis les européennes et la formation d'un nouveau Front Populaire. Eh bien, le leader des Insoumis a repris la parole. C'était hier soir aux 20h de France 2 pour répéter, comme il y a 2 ans, qu'il se verrait bien à Matignon.
Je viens de dire que je m'en sens capable, que le groupe le plus important, compte tenu des chiffres que vous donnez, c'est forcément les Insoumis. Eh bien, il fera une proposition. Il n'imposera rien. Il proposera, et nous avons dans nos rangs de quoi faire. Alors, je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas. Il y aura donc une discussion.
Alors les discussions continuent ce matin, Cyprien Pezeril, c'est vous qui les suivez heure par heure pour RMC. Vous êtes en direct ce matin, Cyprien. Il y a un point qui est réglé, c'est la répartition des circonscriptions.
C'est autour de 229 avec un insoumis à la tête, 175 pour le Parti Socialiste, c'est une centaine de plus que lors des discussions sur la NUPES. Les autres reviennent aux communistes et aux écologistes. Une répartition établie en prenant en compte les résultats aux européennes, mais aussi à la dernière présidentielle. Chacune des circonscriptions est maintenant, depuis le milieu d'après-midi hier, attribuée une à une, dans le plus grand secret. Quant au projet commun, les négociateurs ont transmis une première version au grand chef, un Google Doc sur lequel il reste quelques passages en jaune, signe qu'il y a encore des divergences sur le Proche-Orient notamment. Faut-il se ranger derrière la justice internationale et parler de risque de génocide à Gaza ? Ces dernières heures, ça bloquait aussi sur la qualification terroriste du Hamas. Enfin, il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon parlait d'antisémitisme résiduel en France. Il a été acté, selon nos informations, de reconnaître au contraire, noir sur blanc, sa progression.
Voilà donc pour les discussions à gauche. À droite, le psychodrame continue. Le feuilleton, voilà, Dallas à côté, c'est rien. Encore cette nuit, le compte Twitter, enfin X comme on dit maintenant, qui avait été suspendu dans la soirée, a été rétabli donc dans la nuit avec, hier soir, des messages pro Éric Ciotti, le désormais ex-patron des LR que le bureau politique des Républicains a décidé d'exclure pour son alliance avec le RN. Éric Ciotti qui a fini par prendre la parole sur CNews hier soir au terme d'une journée invraisemblable pour dire qu'il n'abdiquait pas et qu'il envisageait même d'aller jusqu'au pénal.
Je suis président des Républicains et je le reste. Les militants m'ont élu et seuls les militants pourraient me refuser cette légitimité. J'ai voulu, oui, donner un coup de pied dans la fourmilière, casser les tabous du politiquement correct. Il y a un danger immense, c'est ce qui m'a décidé. Je dis qu'on m'en sera reconnaissant dans quelques mois et dans quelques années pour notre famille politique, parce qu'elle était en train de disparaître.
Alors, il y a seulement une poignée d'élus qui le suivent, hein, comme les maires de Cholet et de Montauban. Et par effet ricochet, c'est maintenant le parti Reconquête qui implose, faute d'accord avec le RN. La tête de liste des Européennes, Marion Maréchal, a décidé de soutenir les candidats investis par le RN. Dans la soirée, c'était sur BFM TV, Éric Zemmour a annoncé l'exclusion de Marion Maréchal en dénonçant un record du monde de la trahison.
C'est moi qui l'ai désigné comme tête de liste.
Vous le regrettez.
Ce sont mes militants qui ont fait sa campagne. Elle trahit ces gens. Je suis à la fois écœuré et blessé. Les militants ont tracté pour elle. Les militants ont donné leur argent pour elle. Et au bout de 48 heures, elle les abandonne comme des chiens. Elle rejoint le clan familial.
Alors dans la famille, justement, Marine Le Pen salue une prise de position courageuse de la part de sa nièce. Le RN qui continue de caracoler en tête des intentions de vote. On a ce matin la première projection depuis l'Union de la Gauche. C'est un sondage ELAB pour BFM TV et La Tribune dimanche. RN à 31%, Union de la Gauche à 28% et le camp présidentiel à 18%. Emmanuel Macron a pourtant appelé au rassemblement contre les extrêmes. C'était hier dans sa conférence de presse en proposant un grand débat sur la laïcité, un durcissement de la politique pénale pour les mineurs. Mais c'est comme si ce message ne passait pas chez ses électeurs à Saint-Didier au Mont-d'Or près de Lyon. Vous êtes pour RMC, Vincent Chevalier.
Parmi les électeurs, peu semblent avoir suivi cette prise de parole. Et pour ceux qui l'ont fait, comme Sacha, le constat est sans appel.
Il aurait mieux fait s'abstenir.
Pour ce chef d'entreprise, le président est passé à côté des enjeux.
On nous parle qu'il ne faut pas que les enfants de moins de 11 ans aient accès au digital. Donc on plane, quoi.
Des sympathisants assez critiques envers ces prises de parole qui pourraient devenir contre-productives, selon Nathalie.
Il est de moins en moins crédible, malheureusement, parce qu'il parle trop et il faut qu'il laisse faire aussi ses lieutenants.
Mais Emmanuel Macron garde la confiance d'une partie de ses électeurs, surtout vu le contexte.
C'est le bordel, quoi.
Pour John, le chef de l'État reste le mieux placé pour insuffler une nouvelle dynamique.
Je constate que ça puisse énerver certaines personnes, mais quand il y a des crises comme ça, il faut toujours parler. Sinon, on reste dans le flou.
Un flou qui risquerait d'être favorable aux extrêmes, à gauche comme à droite. Ces alternatives ne plaisent pas à Dawiya. Alors cette indécise rejoindra peut-être le camp présidentiel.
Si vraiment la tendance se confirme, je pense être moins indécise et plus me retourner vers Macron et ses acolytes.
Pour l'instant, Renaissance est crédité de moins de 20% des intentions de vote derrière le Rassemblement National et le Front Populaire.
Il y avait encore des rassemblements anti-RN hier. Près de 12 000 personnes étaient rassemblées dans les grandes villes comme à Lille et Toulouse. Deux informations à vous dire ce matin. La libération d'abord de Louis Arnaud, trentenaire français qui était détenu en Iran depuis une manifestation depuis 2022. On a donc appris hier soir sa libération. Et la condamnation, c'était hier soir à Épinal, de l'adolescent de 16 ans reconnu coupable du meurtre de la petite Rose, 5 ans dans les Vosges l'année dernière, Alfred Orange.
20 ans de prison assortis de 20 ans de suivi socio-judiciaire qui l'interdisent notamment de revenir dans les Vosges. Dans les deux cas, il s'agit des peines maximales des condamnations qui traduisent l'effroi qu'a suscité la personnalité du principal accusé durant tout ce procès. Comparé par un expert au tueur en série, Francis Holm, il a aussi décontenancé la partie adverse. Quelle tristesse, 20 ans de réclusion pour un gamin de 16 ans. Et d'un autre côté, ce n'est pas suffisant parce que vous savez que quand il va sortir, il va C'est notamment exclamé l'avocat des parents de la fillette. L'accusé a reconnu avoir tué Rose après l'avoir attirée chez lui en prétextant de lui montrer un chaton à la sortie. Une avocate de la partie civile résume, le parquet a requis tout ce qu'il est possible de requérir dans le seul but de protéger la société.
La guerre en Ukraine, voilà de quoi il sera question au sommet du G7 qui commence aujourd'hui en Italie. L'Ukraine, il en sera question aussi pendant l'Euro de foot à partir de demain en Allemagne. Nicolas Pelletier pour RMC, c'est un euro sous haute sécurité.
Outre la menace terroriste très élevée en Allemagne, les autorités locales doivent faire face à plusieurs cas sensibles, notamment le hooliganisme. Le pays est au centre de l'Europe et les policiers spécialisés redoutent des rendez-vous entre supporters violents pour en découdre juste avant les matchs. Présence de l'armée, sécurité aux frontières et des policiers privés de vacances. Voilà quelques-unes des mesures pour sécuriser les 2,7 millions de spectateurs attendus. Autour de 1000 forces de l'ordre seront déployées à chacune des 51 rencontres. Le match entre l'Angleterre et la Serbie, programmé mais dimanche est l'un des premiers gros tests pour l'organisation. Enfin, la présence de l'équipe ukrainienne oblige les autorités allemandes à relever le niveau de vigilance. Les joueurs ukrainiens auront une protection particulière et renforcée pendant toute la durée du tournoi.
Et une bonne nouvelle, ce matin, en athlétisme, il y avait les championnats d'Europe qui se déroulaient en Italie. Bilan de 16 médailles à la fin pour l'équipe de France. Il y a eu les trois dernières médailles hier soir, deux en argent et une en bronze de bon augure avant les JO.
Et à 7h08, c'était le journal.
Il est en forme, hein.
Ce coq, c'est l'alerte, vous l'avez entendu, c'est l'alerte euro de foot. Ça veut dire que vous avez 5 minutes pour vous inscrire et pour tenter de vivre l'expérience RMC à l'euro de foot. Aujourd'hui, il y a deux places pour France-Pays-Bas à gagner. France-Pays-Bas le 21 juin prochain à Leipzig. On vous offre le voyage en Allemagne, on vous offre l'hôtel, la rencontre avec les journalistes RMC Sport sur place. Pour vous inscrire, vous envoyez euro par SMS au 7-32-16, euro par SMS au 7-32-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Je prie pour que tu meurs, je gâcherai ta vie. Voilà des menaces de mort proférées par un détenu contre une juge il y a presque 2 ans à Carpentras. Et bien depuis, figurez-vous qu'il a été relaxé. La magistrate, elle, a été obligée de déscolariser ses enfants, de déménager. Son avocat qui a fait appel est le témoin du jour. Il nous raconte tout ça dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Le témoin du jour, c'est vous, Maître Olivier Maurice. Bonjour. Vous êtes avocat et vous êtes avocat d'une juge d'instruction menacée de mort. Et l'homme qui l'a menacée est un trafiquant. Je prie pour que tu meures, je gâcherai ta vie. Je prie le Seigneur pour que vous ayez un accident et que vous mouriez. Ça, c'était il y a 2 ans. Mardi, ce détenu a été relaxé. Comment c'est possible ?
Écoutez, tout d'abord, c'est une très grande colère et une indignation de la magistrate qui a pris connaissance de cette relaxe. En fait, le tribunal a considéré que la qualification qui avait été retenue par le parquet, qui n'était pas menace de mort, mais qui était bien moindre, n'était pas, si vous voulez, susceptible d'être qualifiée dans la mesure où les menaces et les intimidations qui auraient été faites à l'encontre du juge aurait dû l'être dans le but de l'influencer sur une décision juridictionnelle. Alors, lorsque nous avons découvert cette décision, en gros, nous avons compris que le tribunal avait considéré qu'il aurait fallu requalifier les faits d'une manière sans doute beaucoup plus grave, sans même que ce débat puisse avoir lieu lors de l'audience. Alors, autant vous dire que, et d'ailleurs le parquet a fait immédiatement appel de cette décision, mais cette colère et cette indignation, nous l'avons manifestée immédiatement auprès du procureur de la République, parce que tout de même, c'est invraisemblable. Il y a parfois des décisions de justice qui sont totalement illisibles compte tenu des circonstances, dans la mesure où si la juridiction avait considéré qu'il aurait fallu requalifier les faits.
Et pourquoi ils l'ont pas fait dans les 2 ans de l'instruction du dossier ?
Ah ben non, mais d'une part, bien sûr que l'enquête préliminaire, puisque ces faits ont été examinés dans le cadre d'une enquête préliminaire, le choix du parquet de qualifier les faits de la sorte a été malheureusement fait à minima et nous l'avons regretté, nous l'avions indiqué, mais surtout à l'audience, le président aurait très bien pu inviter les parties à s'exprimer sur une requalification éventuelle, ce qui n'a absolument pas été abordé. Ce débat-là n'a pas eu lieu.
Mais j'aimerais quand même qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, Olivier Maurice. Votre cliente, elle est juge d'instruction. Elle se retrouve face à Sofiane Sultana, qui, le 1er août 2022, est un jeune incarcéré au Beaumet, dont le frère est incarcéré au Beaumet. Elle évoque cette question face à lui et il répond, je prie pour que tu meurs, je prie pour qu'une voiture vous frappe à la sortie du tribunal. Tout cela est pris suffisamment au sérieux pour qu'elle soit mise sous protection rapprochée. Elle est finalement dessaisie de l'un des dossiers parce qu'effectivement, elle aurait pu être influencée par les menaces qu'elle a reçues. Elle est terrorisée, cette magistrate. Elle a finalement dû quitter Carpentras où elle travaillait, où elle résidait. Elle a dû vendre sa maison, déscolariser ses enfants et être nommée dans une autre ville que l'on ne citera pas évidemment pour ne pas que les menaces puissent la poursuivre. Et face à tout cela, le prévenu, lui, ressort relaxé.
Et oui, c'est une incompréhension totale. Alors heureusement qu'il y a la possibilité de faire appel, c'est ce que nous avons effectué immédiatement. Mais ce n'est pas simplement, si vous voulez, de l'incompréhension, de la colère, mais c'est aussi, je pense, quelque part un dysfonctionnement du service public de la justice. Parce que là, en l'espèce, il suffisait aux magistrats de qualifier les faits autrement s'ils le souhaitaient, parce que les faits en tant que tels sont incontestables. Et vous savez,
il les a d'ailleurs, si j'en crois le dossier, reconnus. Il dit, je suis parti en vrille, j'ai pété des plombs.
Oui, c'est ça. Il dit qu'il a utilisé un langage habituel dans le lieu de la cité, et que c'est le langage qui lui a été appris, et que c'est le langage qu'il pratique, c'est-à-dire la menace. Alors, c'est extrêmement, je dirais, grave, parce que en quelque sorte, et d'ailleurs ça a été évoqué, vous savez, dans le cadre des travaux d'une commission sénatoriale sur le narcotrafic, notamment dans la ville de Marseille, on a parlé d'une narco-ville, et les magistrats de cette ville avaient expliqué que dans des dossiers de cette nature, ils étaient particulièrement exposés, menacés, et qu'il fallait qu'ils soient protégés. Et là, en l'espèce, le constat que je fais, c'est que cette juge n'a pas été protégée par l'institution. Et c'est parfaitement inadmissible.
Vous avez vous aviez porté plainte, mais vous avez aujourd'hui, enfin le parquet a fait appel. Quelles peuvent être les suites désormais? Donc on est d'accord que le prévenu, Sofiane Sultana, est dans la nature au moment où on se parle?
Non, madame de Malheur. Non. Il est détenu pour autre cause.
Ah, pour d'autres causes. Ah oui, parce que ça se rajoutait aux autres causes.
C'est quelqu'un qui a déjà été condamné. C'est quelqu'un qui fait l'objet de plusieurs procédures, des procédures très lourdes, notamment en matière de trafic de stupéfiants, et il est détenu actuellement. Et évidemment, le fait qu'il y ait appel va nous permettre, devant la cour d'appel de Nîmes, à nouveau d'évoquer cette affaire, mais entre-temps, vous devez admettre que le choc pour cette juge est considérable, dans la mesure où elle a l'impression d'avoir été totalement lâchée par l'institution judiciaire, après cette relaxe qui est tout à fait inadmissible.
Merci maître Olivier Maurice, donc avocat de cette juge d'instruction. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sera mon invité à 8h30. Je ne manquerai pas, évidemment, de le faire réagir à cette affaire. Il est 7h17 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans 20 minutes, Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, nous dira où en sont les négociations à gauche, parce que c'est en ce moment même, dans les heures qui viennent, qu'il faudra trancher. Et puis si Jean-Luc Mélenchon est son candidat pour Matignon. En attendant, on va retrouver Manu Le Chypre, Arnaud Demange et Amélie Rosic avec de nouvelles révélations sur l'affaire des airbags d'Elantis. A tout de suite.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu avec Victor Joannin. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline.
Ce matin, vous nous révélez que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, met 4 millions d'euros sur la table pour éviter les grèves à la RATP.
Oui, c'est un appel d'offres publié par Île-de-France Mobilité, l'organisme présidé par Valérie Pécresse qui gère les transports en commun franciliens et qui veut recruter un cabinet de conseil pour l'aider à passer sans heurts le cap de l'ouverture à la concurrence des bus, car le plus gros morceau arrive dans 2 ans lorsque les 16 000 conducteurs de bus de la RATP pourront être transférés dans des entreprises concurrentes en perdant leur statut. Un sujet explosif, juge un syndicaliste à la retraite. La mission du cabinet de conseil, trouver la recette pour rassurer ces conducteurs de bus, les chouchouter pour les conserver dans une situation de pénurie. Montant du contrat 4 millions d'euros, une goutte d'eau comparée aux dépenses de fonctionnement de la RATP. Mais cette mission n'est pas du goût de l'opposition et des syndicats. Il y a déjà des discussions entre les syndicats et toutes les entreprises susceptibles de remplacer la RATP, relate un responsable force ouvrière. Je ne vois pas la plus-value d'aller gaver un cabinet de conseil. Un élu de l'opposition se moque. Il dépense un fric fou à organiser la concurrence et comme ça ne marche pas, il paye un cabinet de conseil. On est chez les Shadocks. Lors d'une audition il y a quelques semaines, Valérie Pécresse se félicitait de l'ouverture à la concurrence, mais reconnaissait que la transition était difficile.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et on retrouve le trio du 7h20 d'Apolline Matin, Amélie Rosic, Manu Le Chypre et Arnaud Demange. Bah Arnaud, vous êtes où?
Eh bien, je suis dans les fermetures surprises du périph.
Ah,
voilà, Biden petites... est parti, mais les problèmes sont restés.
Ah, très bien.
Vous connaissez moi. Je suis un homme de terrain.
Oui.
Je suis toujours le premier sur le terrain.
À tout de suite, Arnaud. Amélie, on reste dans le domaine des automobiles. On parle de ces airbags défectueux qui équipent certains modèles de Citroën.
Oui, on va le rappeler. Début mai, 250 000 véhicules C3 et DS3 sont rappelés en France avec interdiction de rouler. Leurs airbags sont dangereux. Ils peuvent exploser à tout moment sous l'effet de la chaleur et de l'humidité. Et ils sont soupçonnés d'avoir provoqué la mort de 4 automobilistes. Serge avait 51 ans. En novembre dernier, il prend sa C3 pour aller déjeuner chez ses parents à Galan, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Il n'est jamais arrivé. Sa mère, Louisette, s'exprime pour la première fois. C'est un témoignage RMC au micro de Guillemette Franquet.
Je pleure. Quand ça me prend, je pleure. Voilà. Et c'est duré. Surtout à l'âge qu'on a, nous, parce qu'il aurait valu mieux partir nous autres que le petit. Je l'appelle le petit, moi. Il avait toute sa vie devant lui, quoi.
Une enquête est ouverte en recherche des causes de la mort. La procureure de la République de Tarbes nous confirme que l'airbag du véhicule de Serge est en lien, je cite, avec l'accident mortel.
Amélie, aujourd'hui, ses proches cherchent des réponses auprès de Citroën.
Comme toutes les autres victimes, et on le comprend, ils veulent comprendre en fait comment et pourquoi le constructeur a attendu début mai pour rappeler ses véhicules. Et c'est une information RMC. L'avocat Christophe Legvac va déposer une sommation interpellative ce matin. En clair, un huissier va se présenter devant Carlos Tavares, le patron du groupe Stellantis, pour lui remettre en main propre un courrier et le contraindre de répondre à cette question. Depuis quand savait-il que ces airbags étaient dangereux ?
Oui, la question c'est de savoir si Citroën a laissé sciemment ses clients conduire avec des voitures dangereuses.
Absolument, et pour le moment le constructeur se borne à dire qu'il surveillait cette pièce depuis longtemps, avant même 2019 et le premier cas d'accident en Guadeloupe. Le patron de Stellantis peut tout à fait refuser de se soumettre à cette sommation interpellative, mais dans ce cas, son silence sera constaté par huissier et dès l'ouverture d'une procédure judiciaire, ce sera ajouté au dossier et ça pourrait jouer contre lui. 362 plaignants se sont déjà joints à l'action collective lancée par Maître Legvac.
Amélie, et pour tous les autres véhicules concernés, que fait le constructeur ?
Selon nos informations, 15 000 airbags ont été remplacés à ce jour. 25 000 véhicules de prêt ont été mis à disposition des clients. En faisant des petits calculs, il reste donc 210 000 automobilistes sans solution et beaucoup n'ont pas le choix, continuent de rouler avec en ayant pris la peine de désactiver le système d'airbag.
Merci Amélie. L'actualité écho à 7h20. Manu, c'est l'un des arguments d'Emmanuel Macron hier. L'arrivée du RN au pouvoir, ce serait la ruine des petits épargnants.
Alors, le risque effectivement qu'il brandit, en fait, c'est celui d'une flambée des taux d'intérêt qui résulterait de la défiance des investisseurs étrangers qui financent aujourd'hui nos déficits publics et notre dette publique, ce qui effectivement provoquerait un effondrement du marché immobilier déjà mal en point, une chute de la bourse et des secousses sur l'assurance vie. Alors, pour le moment, les marchés, ils sont inquiets, ils sont pas paniqués. Si vous regardez depuis lundi, le CAC 40 a perdu 2%. C'est substantiel, mais c'est raisonnable. Et puis, les taux d'intérêt à 10 ans, qui sont le baromètre un petit peu de cette confiance des investisseurs étrangers, ils sont passés de 3 à 3,2%, sachant que le seuil qui serait jugé vraiment critique, le seuil de panique, ce serait de passer au-delà des 4%. Donc, pour le moment, on en est assez loin. Ce qui les inquiète quand même, c'est le programme du RN. Et là, le seul programme sur lequel ils peuvent se baser, c'est celui de Marine Le Pen en 2022. Et là, effectivement, ils voient qu'il y a beaucoup de dépenses, des baisses de taxes, d'impôts, la TVA sur l'énergie, notamment, des subventions, le retour de la retraite à 62 ans, ça fait quand même 100 milliards d'euros de déficit public en plus chaque année. Mais en réalité, ils attendent de voir ce qui sera vraiment proposé.
Quel est le scénario le plus probable ?
Alors, il y a deux possibilités. Le RN maintient son programme présidentiel et là, le scénario le plus probable, c'est le scénario britannique à la Liz Truss. Vous savez, en octobre 2022, elle présente un budget qui est assez similaire à ce que propose le RN aujourd'hui. Et alors là, la livre s'effondre, les taux d'intérêt flambent, elle est obligée de démissionner. Donc elle ne peut pas résister à la pression des marchés. Soit l'autre option, c'est le RN et ses alliés présentent un programme plus raisonnable et rassurent les marchés. Là, c'est le scénario à la Giorgia Meloni qui avait essayé, qui avait dit je ne transgresserai pas les règles budgétaires de l'Europe, etc. Et là, ça c'était plutôt passer dans le calme. La réalité, c'est qu'on sera sans doute entre les deux, au prétexte, évidemment, de l'audit financier que nous a promis tout à l'heure le porte-parole du Rassemblement National. Audit financier dont je vous annonce qu'il sera sans doute catastrophique sur l'état du pays et qu'il empêchera évidemment de faire tout ce que voudrait faire le Rassemblement National. Et donc voilà, on sera un peu entre les deux, entre le scénario anglais et le scénario italien. Donc ça risque de tanguer un peu quand même.
Arnaud qui est dans les bouchons. Mon invité pour le face-à-face, c'est le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
Oui, alors apparemment, c'est les premières fermetures d'axes de circulation surprise pour les JO. On comprend pas pourquoi, mais heureusement, comme on n'est pas prévu, demain, j'ai demandé à Amazon de me livrer par drone.
D'accord.
Ça s'annonce bien ces jeux. Éric Dupond-Moretti va redevenir avocat, c'est très bien. Il va pouvoir s'occuper du cas d'Anne Hidalgo. Bon courage à lui. Mais pour l'instant, il a un dossier beaucoup plus grave. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'accusé. Paris, France. Nous sommes le dimanche 9 juin et Emmanuel, qui exerce la profession de président de la République, décide de déposer une bombe dans la vie politique française. Il vaporise instantanément 577 députés sans aucune pitié. Bilan, trois partis morts. LR, Renaissance et Reconquête. Même si pour Reconquête, c'est pas grave, son avocat réagit sur notre antenne. Et il va devoir batailler Éric Dupond-Moretti, parce que après la conférence d'hier, Emmanuel Macron va avoir besoin d'un bon défenseur. Alors le président a tenté l'apaisement. Par exemple, il nous a dit que oui, bon, le RN était aux portes du pouvoir, mais il a promis que si on votait pour lui, la réforme de l'assurance chômage serait maintenue. Ça, c'est de l'apaisement. C'est l'apaisement selon Emmanuel Macron.
En tout cas, Éric Dupond-Moretti, il va avoir du mal. Éric Dupond-Moretti, à nous dérouler sa plaidoirie habituelle, c'est-à-dire Madame de Malherbe, si la gauche arrive au pouvoir, ce sera le chaos. Parce qu'en termes de chaos, on n'a pas l'air plus à l'abri avec les macronistes, la droite ou l'extrême droite. Hein. Macron, là, moi, je suis à deux doigts de l'appeler Madame Claude. Il est à la tête du plus grand bordel d'Europe. Alors, bon courage à Éric Dupond-Moretti pour ce boulot. Et rendez-vous tout à l'heure à 8h30. Je vais finir à pied.
Allez,
à tout de suite.
À tout de suite, Arnaud. Mon invité, vous l'avez donc compris dans le face-à-face, ce sera le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il est 7h28.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Déjà plus de 60 000 demandes de procuration pour les législatives. Emmanuel Macron espérait un sursaut avec la dissolution de l'Assemblée. Il devrait au moins pouvoir compter sur une participation plus forte qu'aux européennes. Aux Républicains, après une journée de psychodrame et l'exclusion d'Éric Ciotti, on tente de se remobiliser. Et puis c'est l'élection la plus attendue du monde du sport. Les comités olympiques et paralympiques français présentent aujourd'hui les candidats pour devenir porte-drapeau des Jeux Olympiques.
Y aura-t-il un sursaut dans les urnes législatives ?
En tout cas, il y a déjà un sursaut sur les procurations avec plus de 63 000 demandes en seulement deux jours. C'est considérable, dit le ministère de l'Intérieur, et ça a commencé dès le lendemain de la dissolution de l'Assemblée. Alors forcément, avec un premier tour le 30 juin et un second le 7 juillet, beaucoup de Français seront partis. Et puis il y a ceux qui s'étaient jusqu'ici abstenus mais qui cette fois veulent peser. Résultat, Marion Gauthier, c'est l'effervescence.
Sur les réseaux sociaux d'abord, le mot procuration se multiplie. Libre pour une procu à Nancy, a écrit Fouillimi.
Dans l'heure, une personne m'a contacté en message privé et on a échangé un petit peu afin d'être sûr en fait que on soit raccord.
Un saut dans l'inconnu dimanche soir.
Enfin, même de me demander qui j'allais voter, qui allait faire union, tout ça, je me suis dit bon déjà il faut que les gens qui n'aient pas voté votent.
Alors Élodie toque à la porte de ses voisins.
On a fait un petit tableur pour se dire qui était là, qui n'était pas là, entre gens de confiance et pour se refiler des procus. Et là on a récupéré une quinzaine de voix pour chaque tour.
D'autres électeurs optent pour Plan Procu, un site de rencontre entre ceux qui cherchent et ceux qui acceptent de prendre une procuration. 3000 demandes en 3 jours contre 2000 pour toute la campagne des européennes.
Dès la nuit de dimanche à lundi, on a eu des pics de connexions énormes, 80 000 connexions dans la nuit, voilà, ils s'arrêtent pas.
Clémence Penne est coprésidente de l'association A Voter qui a lancé la plateforme.
Ça veut dire que les gens sont hyper mobilisés et inquiets. En même temps, ça veut dire aussi que la date ne convient à personne. Donc il y a beaucoup de gens qui vont passer à côté, tout simplement.
La procuration est un dépannage, insiste-t-elle. Il faut aller voter.
Et selon un sondage Elab publié hier pour BFM TV et La Tribune dimanche, 57% des inscrits sur les listes électorales sont certains d'aller voter. 10% l'envisagent sérieusement, ce qui laisse penser que la participation sera plus forte qu'aux européennes. Sondage qui nous apprend également que le Rassemblement national devrait arriver en tête avec 31% des intentions de vote, mais sans décrocher la majorité absolue. Le parti pourrait obtenir entre 220 et 270 sièges. L'Union des Gauches arrive en deuxième position à 28%, soit 10 points de plus que le camp présidentiel. Chez les Républicains, crédité de 6,5% des voix, le psychodrame se poursuit sur les réseaux sociaux du parti après l'épisode de la porte du siège fermée à double tour hier. Une guerre interne entre le compte Facebook et le compte Twitter, l'un tenu par les pros, l'autre par les anti-Ciotti. Éric Ciotti qui conteste toujours son exclusion du parti, mais désormais Romain Cluzel, le parti va tenter tant bien que mal de tourner la page et de se concentrer sur le scrutin à venir.
Les nouveaux dirigeants des Républicains ont désormais une obsession, désigner des candidats pour les législatives le plus vite possible. Et le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, insiste, pas question d'une alliance avec qui que ce soit.
On ne sort pas de cette crise avec des petites alliances d'arrière-boutique. Face à l'impuissance dans laquelle le « en même temps » a mené ce pays, face au saut dans l'inconnu que représente le Rassemblement national, il y aura besoin demain à l'Assemblée nationale de la stabilité que peut apporter cette droite républicaine indépendante.
Après l'exclusion d'Éric Ciotti, plusieurs élus poussent un ouf de soulagement. C'est le cas du maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun.
On va ressortir renforcé de cette crise. On a vu une unanimité comme jamais, beaucoup de prises de parole ont été pour dire que finalement, parfois dans cette famille politique, on se faisait la guerre en interne et que c'était désormais derrière nous et qu'on était tous rassemblés. La suite, c'est de présenter des candidats de la droite républicaine, indépendants.
Les investitures ont déjà commencé et vont se prolonger aujourd'hui. Éric Ciotti, lui, conteste toutes ces procédures et dénonce un putsch.
Rupture consommée aussi chez Reconquête. Éric Zemmour a exclu sa tête de liste aux européennes, Marion Maréchal, après son appel à soutenir les candidats de l'alliance entre Ciotti et le Rassemblement National. À gauche, les négociations sont sur le point d'aboutir. La répartition des circonscription s'est réglée, mais il reste des points de blocage sur le programme, notamment sur la qualification du Hamas. Avec Jean-Luc Mélenchon qui est revenu dans la course hier soir aux 20h de France 2, je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas pour un poste de Premier ministre, a assuré le patron de la France Insoumise. On en parle juste après ce journal avec Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Il est 7h36, il était détenu en Iran depuis septembre 2022. Le Français Louis Arnault a été libéré et va pouvoir rentrer chez lui aujourd'hui, annonce d'Emmanuel Macron hier soir. Et c'est donc le fruit de plusieurs mois de négociations entre la France et l'Iran, Cassandre Brault.
21 mois que ce trentenaire consultant de profession était détenu en Iran. Il a quitté sa prison de Téhéran hier matin, parti faire le tour du monde dans un pays qu'il rêvait de visiter depuis longtemps, selon sa mère. Mais en septembre 2022, tout bascule et Louis Arnault est arrêté, accusé d'avoir participé avec d'autres Européens à des manifestations après la mort de Mahsa Amini, une jeune iranienne décédée lors de son arrestation par la police des mœurs. Ses compagnons de voyage avaient été libérés assez rapidement, mais pas lui, condamné même à 5 ans de prison pour propagande et atteinte à la sécurité de l'État iranien. Une peine jugée inacceptable par la France pour qui Louis Arnault était un otage d'État. Hier soir, Emmanuel Macron a exhorté Téhéran à libérer les trois autres Français toujours détenus dans des prisons iraniennes.
7h37, 16 médailles et 4 titres. C'est la belle moisson de la France à Rome au championnat d'Europe d'athlétisme et c'est de bon augure juste avant les Jeux Olympiques. Avec d'ailleurs cette question et ce suspense, qui va devenir porte-drapeau de la délégation française? Début de réponse cet après-midi avec la présentation par les comités olympiques et paralympiques des différents candidats. Morgane Maury, la campagne démarre.
C'est l'élection la plus attendue du monde du sport. Pour le poste, on recherche un homme et une femme ayant déjà participé aux Jeux Olympiques, n'ayant jamais été porte-drapeau. Une annonce alléchante pour plusieurs grands noms du sport français. Quelques favoris vont être présentés par leur fédération. La discobol Mélina Robert Michon qui va participer à ses 7e JO. Le nageur Florent Manodou, la boxeuse Estelle Mosley. Plusieurs fédérations n'ont proposé aucun nom. Début juillet, tous les athlètes français sélectionnés pour les JO seront amenés à voter. L'homme et la femme à recueillir le plus de voix défileront sur la scène en tête de la délégation le 26 juillet prochain, qui succédera au gymnaste Samir Aït Saïd et à la judoka Clarisse Agbenienou. Réponse dans un mois.
Et le quintet, c'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Aujourd'hui, rendez-vous à 20h15. Voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le numéro 16, Cheek to Cheek. L'outsider, c'est le 15, Le Bugiste. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise dans Jean-Élise, 7h38.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.
Les négociations à gauche, ça continue là, en ce moment. Les différents partis se sont répartis le nombre de circonscriptions, mais sur quel fond, sur quel programme et avec qui pour l'incarner? Est-ce que ce sera Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre? La réponse d'Olivier Faure. Olivier Faure qui est le premier secrétaire du Parti Socialiste et qui est mon invité dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, excellent réveil à tous.
L'invité du jour.
On va essayer d'y voir plus clair. À gauche, bonjour Olivier Faure.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être dans ce studio, d'avoir accepté l'invitation d'RMC. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre?
Ah bon?
Bah, je sais pas, il a dit hier qu'il était prêt.
Bah, écoutez, je comprends qu'il soit prêt. Ça fait 2 ans qu'il a été le candidat de la NUPES pour cette fonction. Et à l'époque, il avait une légitimité très forte. Il était l'homme des 22%. Et donc, il pouvait légitimement y prétendre. Et nous avions d'ailleurs à l'époque considéré que c'était même le seul qui soit en mesure de se présenter à cette fonction.
C'est plus le cas?
Aujourd'hui, c'est un peu différent. Effectivement, je vois bien qu'on essaye de faire réapparaître LFI comme le danger, mais LFI, c'était 10% aux élections européennes, c'était 14% pour
le PS. Qui essaye? Personne n'essaye de faire réapparaître. Jean-Luc Mélenchon s'est invité aux 20h hier pour dire qu'il était prêt à être...
Moi, ce que je vais vous dire, Apolline Noël, c'est une chose très simple. Nous sommes dans un pays qui est un pays fracturé, très fracturé. Et le chef de l'État y contribue avec toute la force nécessaire, y compris par ce qu'il a décidé dimanche soir, c'est-à-dire une dissolution. Donc on a un pays qui peut se briser et qui est aujourd'hui menacé par nos divisions. Et donc moi je crois que tout simplement, lorsque la nouvelle coalition sera majoritaire, eh bien, elle devra se réunir et elle devra choisir en son sein celui ou celle qui est le plus en mesure de réparer les liens distendus, de faire en sorte que nous puissions apaiser ce pays, le rassurer et renouer les fils du dialogue avec les Français.
Pourquoi
cela suppose,
très clair,
cela
parce que
suppose
c'est
qu'on ait un profil qui soit un profil qui soit non pas le plus clivant, mais qui permette au contraire de fédérer ce pays. Ce pays a besoin d'être à nouveau fédéré.
Est-ce que vous
Emmanuel
pouvez
Macron
dire les choses de manière claire ? Est-ce que ça veut dire, Olivier Faure, que vous estimez que Jean-Luc Mélenchon n'est pas cette personne parce qu'il est précisément clivant et que vous estimez que dans le contexte, il ne faut pas qu'il soit Premier ministre ?
Mais je crois avoir été clair sur mon choix. Maintenant,
vous vous opposerez maintenant à la candidature de Jean-Luc Mélenchon au poste de Premier ministre de votre coalition.
Nous aurons une discussion lorsque ce groupe deviendra majoritaire, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. D'abord, j'aimerais qu'on arrête de présidentialiser un scrutin qui ne l'est pas. Nous sommes sur un scrutin législatif. Et donc, là où nous prenons nous-mêmes tous la 6e République, ça suppose qu'à un moment, on en tire toutes les conséquences. Donc, pas de personnalisation à outrancière dans cette élection législative. Il faut une équipe, il faut des gens qui soient prêts à gouverner ensemble et pour que ça marche dans la durée. Mais je ne lui ai pas dit, je le lui dis ce matin, je l'ai dit à ses amis, à ceux
visiblement,
qui
il vous a pas écrit, il a quand même fait cette déclaration hier soir.
Mais je comprends qu'il la fasse. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'il considère qu'il est de ceux qui peuvent prétendre à cette fonction. Je ne le disqualifie pas, je dis simplement que ce choix sera un choix collectif et qu'il faudra que ce soit tous les groupes.
Lui, il dit que ce sera un choix mathématique. Et là, je voudrais quand même essayer de comprendre, parce que au-delà de vos déclarations, il y a les faits. 229 candidats LFI, 175 candidats Parti Socialiste, 92 candidats Écolo et 50 candidats du Parti Communiste. Et Jean-Luc Mélenchon qui dit, c'est simple, c'est le meilleur qui gagne, celui qui aura le plus d'élus proposera son premier ministre. Ils ont 229 candidats, vous en avez 175. C'est mathématique, c'est lui qui gagne.
D'abord, vous parlez de candidats et moi, je vous parle d'élus. Et par ailleurs, si nous voulons que cette coalition tienne dans la durée, qu'elle puisse gouverner ensemble intelligemment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que ce soit tous les élus du Front Populaire qui puissent ensemble décider de celui ou celle qui sera le mieux placé pour diriger le pays pendant 2 ans et demi, faire en sorte, je le répète, non pas de fracturer ce pays, mais au contraire de le fédérer, de lui donner une ambition commune, faire en sorte que nous puissions rassembler les Français à un moment où ils n'ont jamais été aussi divisés.
Rassembler les Français, c'est ceux qui ont voté notamment pour Raphaël Glucksmann dimanche. Il y a Mounir qui nous appelle, qui est de ceux-là. Bonjour Mounir.
Bonjour Apolline, bonjour
Monsieur Faure. Vous êtes chef d'entreprise à Metz, en Moselle. Vous avez voté Raphaël Glucksmann dimanche. Vous aviez une question pour Olivier Faure.
Oui, bonjour Apolline, bonjour Monsieur Faure. Oui, j'ai voté pour Raphaël Glucksmann. Donc là, je comprends pas l'association LFI-PS qui a été fait assez rapidement parce que pour moi, Monsieur Mélenchon, c'est pas Monsieur Georges Marchais. Là, le PS, vous renaissez de vos cendres, vous étiez en troisième position et vous allez vous associer avec un parti politique qui, depuis ces derniers mois, fait n'importe quoi et en perdition. Sa position par rapport aux événements au Proche-Orient, elle est injustifiable. On doit aussi bien défendre Gaza, mais on doit aussi bien défendre les otages et on doit aussi bien condamner tous les viols. Et ça, eux, ils n'ont pris qu'une position, c'est défendre Gaza. Ok, pas de problème. Deuxième point, Mélenchon Premier ministre, hors de question, M. Faure. Hors de question. Il vaut mieux encore avoir. Franchement, Laurent Berger, c'était une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée, M. Faure. Laurent Berger, Premier ministre, c'est un mec qui est du monde du travail. C'est une très bonne idée. M. Mélenchon, non. Non, il est impulsif, il est caractériel. Il vous parlait d'une France fracturée. Il a contribué largement à cette fracture. Largement, largement, largement.
Qu'est-ce que vous répondez à Mounir, Olivier Faure ?
D'abord que c'est mal connaître la gauche que de penser que face au danger de l'extrême droite, parce que là, on parle du danger de la France insoumise. La France insoumise, c'était 10% il y a à peine 3 jours. Le RN, l'extrême droite, c'est 40%. Et donc, le danger, il est là. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes tous liés, parce que dans toute notre histoire, et ça ne changera pas, l'ADN de la gauche, c'est de se rassembler prioritairement contre l'extrême droite. Et donc, c'était une folie de la part du président de la République que de parier sur la division de la gauche, alors que dans tous ces grands moments de l'histoire où nous avons été confrontés à cette menace, nous nous sommes toujours retrouvés. Parce qu'il n'y a pour moi aucune comparaison possible entre les uns et les autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous irons unis, je l'espère, rassemblés.
Est-ce qu'il y aura des candidats du NPA qui a annoncé hier le nouveau parti anticapitaliste rejoindre la coalition ?
Pour l'instant, je n'ai pas entendu, dans la discussion qui existe entre nous sur les circonscriptions, je n'ai pas vu de circonscription attribuée au NPA. Et la question pour moi, c'est de toute façon de faire en sorte que nous ayons un respect réciproque, que nous puissions
Mais sur cette question du NPA, vous n'en avez pas vu? Est-ce qu'il y en aura? Est-ce que vous vous y opposerez?
On peut avoir un candidat du NPA.
On peut avoir candidat du NPA. Alors moi, je vais reprendre les mots de Mounir sur la question aussi d'Israël-Palestine. Je reprends le communiqué du NPA le 7 octobre. Hein, c'est pas
oui, ce sera
le 7 octobre.
Je connais
l'offensive position, de mais... Gaza. Nous sommes tous palestiniens. Depuis ce matin, une offensive a été lancée depuis Gaza par le Hamas. Donc ils citent le Hamas et ils estiment qu'il faut soutenir cette offensive. L'offensive dont on parle, c'est le 7 octobre, c'est le massacre dans le sud d'Israël.
Oui, je ne partage pas cette position. Et d'ailleurs,
vous ne partagez pas cette opposition.
Et ça n'est pas, et ça ne sera pas la position de la coalition, parce que nous discutons du projet.
Une personne qui a soutenu ce communiqué,
ceux qui ne partagent pas le projet que nous allons porter ensemble, ne seront pas candidats. C'est clair. Et donc, dans le projet que nous négocions
actuellement, est-ce que vous soutenez, vous allez soutenir des candidats dont la position a été
choisie? Je vous ai répondu à l'instant. Ceux qui ne partagent pas ce que sera le texte commun de la coalition ne seront pas candidats. Et dans le texte de la coalition...
Est-ce que ça vous met mal à l'aise, Olivier Faure?
Mais je ne suis pas mal à l'aise.
Vous n'êtes pas mal à l'aise?
Je dis simplement que nous ne transigerons pas sur des questions qui sont essentielles. Nous avons une...
Mais ce n'est pas déjà le faire, là, que d'accepter quelqu'un qui a signé un communiqué comme celui-là?
Mais je n'ai pas accepté personne. Je vous dis que
en réalité, il peut y avoir un ou deux candidats à NPA.
Qu'il y ait aujourd'hui des gens qui se battent avec nous contre l'extrême droite, ça me semble être un point important. On ne peut pas résumer la vie politique française uniquement à la question israélo-palestinienne. Ça n'est pas le seul sujet. Non, mais j'entends ce que vous me dites. Simplement, ce que je vous dis moi.
Donc ça, c'est
mais laissez-moi vous répondre en vous disant que c'est pas grand-chose. Je vous dis exactement l'inverse. Je vous dis que sur cette question, qui est une question qui a divisé aussi profondément le pays, nous ne pouvons pas continuer à avoir un affrontement entre les uns et les autres. Il faut évidemment pleurer avec les Israéliens le 7 octobre, et depuis, il faut évidemment pleurer sur les morts qu'il y a à Gaza. Et donc, nous devons être intransigeants sur cette question. Il faut préserver l'État d'Israël et sa sécurité. Il faut en même temps assurer la possibilité d'un État palestinien, parce que ce conflit dure depuis trop longtemps et que nous ne pouvons pas accepter que génération après génération, on revive le même cauchemar. Alors, on ne le revivra pas.
Aujourd'hui, vous aurez la liste. D'ici ce soir, d'ici demain, vous serez complètement...
J'espère le plus tôt possible, mais pour l'instant, on n'a pas abouti. Et donc, pourquoi? Parce qu'il faut faire... Qu'est-ce que je souhaite, moi?
Mais qu'est-ce qui n'aboutit pas, pardon?
Qu'est-ce qui n'aboutit pas? À la fois, sur les sujets de fond, nous n'avons pas conclu. Il y a encore des sujets sur lesquels...
Est-ce que vous n'avez pas signé un peu tôt?
On n'a rien signé. On a signé le fait que nous avions l'intention les uns et les autres, et cette intention, je la maintiens ce matin à votre micro, nous devons nous retrouver, nous devons empêcher... ensemble, la victoire de l'extrême droite, et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Vous avez vu les sondages. Le camp présidentiel est dans les choux. Il faut maintenant que la gauche s'oppose à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir.
L'intention. Donc, vous avez l'intention. Mais ça n'est pas conclu.
Pourquoi ça n'est pas conclu? Parce que nous ne pouvons pas avoir dans la répartition des circonscriptions, par exemple, une répartition qui ne correspond pas aux meilleures façons de l'emporter. Ça ne peut pas être une répartition uniquement mathématique.
Ça ne peut pas être les bonnes circonscriptions pour LFI et les mauvaises pour le PS, quoi.
En gros.
Si je traduis.
Traduisez, si vous voulez. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais enfin, pour que tout le monde comprenne, la question, c'est aussi la question de la qualité. Et nous avons besoin de la qualité des candidats, que les meilleurs candidats soient sur les circonscriptions face au RN pour que nous puissions l'emporter. Si nous choisissons de manière totalement mécanique et uniquement en fonction des couleurs politiques, le risque, c'est quoi? C'est d'avoir, en réalité, un RN qui sera plus puissant, plus fort et qui pourra atteindre la majorité absolue.
Et cette alerte, on l'entend bien, vous l'adressez à vos compagnons donc de coalition de la gauche dans les négociations des heures qui viennent. Merci Olivier Faure d'être venu dans ce studio ce matin. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. Il est 7h52.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, expliquez-nous Nicolas.
Je vous explique si oui ou non TikTok a pesé sur les élections européennes.
À tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Après le succès mondial sur Netflix du film français Sous la Seine.
Oui, ce film, ce thriller sorti la semaine dernière qui surfe sur les JO en imaginant un requin sanguinaire qui remonterait la Seine et sèmerait la panique dans Paris.
Un requin dans la Seine.
Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris?
Pour l'heure qu'il est beluga, vous vous êtes pas posé la question, non? Le départ du triathlon est dans moins de 24 heures.
Si nous ne faisons rien,
Immense succès, en tête du classement des films les plus regardés à travers le monde sur Netflix, plus de 40 millions de vues. Alors, la critique française a été assez rude, hein. On a même vu des scientifiques s'insurger contre le manque de cohérence du film, mais la presse étrangère est beaucoup plus emballée, et c'est d'ailleurs ce qui intéresse Netflix, hein. C'est une nouvelle stratégie de la plateforme, mettre en avant des contenus non américains, mais qui ont un succès international. Et d'ailleurs, le réalisateur Xavier Jans ne ferme pas la porte à l'éventualité d'un deuxième volet. Pour moi, dit-il, il peut y avoir ensuite d'autres requins dans d'autres grandes villes du monde.
Paris est et sera toujours une immense fête.
Aussi bien que les
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h56, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas, le succès de Jordan Bardella aux Européennes, il s'explique aussi par sa présence sur les réseaux sociaux. La tête de liste du Rassemblement National est très présent sur TikTok, le réseau préféré des jeunes.
Oui, dimanche soir, en découvrant les résultats, la tête de liste des écologistes, Marie Toussaint, déçue par son score, a lâché cette confidence. J'ai sous-estimé la force de TikTok et des faux-semblants. Allusion députée donc au résultat de Jordan Bardella chez les jeunes. Jordan Bardella qui est effectivement très actif sur TikTok et qui cumule 35,8 millions de j'aime, ce qui est un record pour un homme politique français.
Il a toute une équipe dédiée aux réseaux sociaux.
Oui, 10 personnes s'occupent de sa communication en général et de TikTok en particulier. Ils ont publié pendant la campagne plusieurs vidéos par jour, beaucoup qui reprennent les meilleurs moments de ses passages à la télé, et forcément les moments les plus avantageux pour lui. Mais les vidéos les plus populaires sont celles sur les coulisses, avec par exemple près de 4 millions de vues pour une vidéo où il expliquait qu'avant un débat, il aimait beaucoup manger des bonbons Haribo. Tout cela, évidemment, a contribué à sa notoriété chez les jeunes, mais en réalité, aucune étude sérieuse n'est capable de nous dire aujourd'hui quel est l'impact réel de TikTok sur les résultats électoraux.
Jordan Bardella n'est pas le seul à bien utiliser TikTok.
Non, les élus de la France Insoumise maîtrisent très bien les codes aussi. Par exemple, les édits, ces petits montages rythmés, généralement très drôles. Le député de Marseille, Sébastien Dologou, est un des meilleurs. C'est lui qui avait brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée. Et il propose d'inviter à dîner les internautes qui publieront la meilleure vidéo à sa gloire. À l'étranger, ça fait longtemps que les politiques ont intégré TikTok à leur plan de campagne. Les partisans de Donald Trump se servent du réseau pour se moquer de leurs adversaires. En Argentine, on a beaucoup dit que sans TikTok, le président Javier Milei n'aurait peut-être pas été élu.
Et c'est donc un réseau chinois qui pèse ainsi sur la campagne électorale.
Et oui, TikTok a été créé en Chine il y a moins de 10 ans par Zhang Yiming, un entrepreneur de Shanghai. Très vite, les capitaux américains sont venus accompagner le succès. Une pluie de dollars est tombée sur l'entreprise, mais le fondateur est tout à fait resté dans la ligne du parti communiste. Les autorités américaines ont plusieurs fois menacé d'interdire TikTok, accusant le réseau chinois d'espionnage. La France, comme le Canada et d'autres pays, interdit à ses fonctionnaires d'utiliser TikTok sur leur portable professionnel, mais on l'a vu, tout cela n'empêche pas les politiques français de se servir de cette plateforme chinoise pour soigner leur popularité.
Les explications de Nicolas Poincaré. À tout de suite pour la météo et le journal de 8h.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.